dans l'émission. Chaque jour, on découvre des entrepreneurs qui se lancent, même si c'est la crise. Et c'est le cas, comme vous, Guillaume Peter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de Switch. Alors, Switch, ça s'écrit S-W-I-T-C-H. Switch a été lancé pendant le confinement, période pendant laquelle votre premier, vous avez une première société, Stud & Match, elle était à l'arrêt. Et vous vous êtes dit, je vais remonter autre chose. C'est une plateforme, Switch, d'échange de logements entre étudiants internationaux. Vous allez tout nous dire. C'est parti, vous avez une minute.
Alors effectivement, Switch est une plateforme d'échange de logements entre étudiants internationaux. Donc si vous voulez, on va donner la possibilité aux étudiants en mobilité internationale, donc lors d'un stage, d'un semestre à l'étranger ou alors d'un échange université, on va leur permettre d'échanger leur logement. Donc ça peut être une chambre chez les parents, ça peut être une chambre en colocation ou alors ça peut être un appartement en entier. Donc si vous voulez, on va prendre un exemple de Lola, qui est étudiante parisienne, qui a un stage à faire à New York pendant 6 mois. De l'autre côté, on a une étudiante new-yorkaise, Hailey par exemple, qui elle a un stage à faire sur Paris pendant 6 mois, sur la même période que Lola. Donc les deux sont à la recherche d'un logement dans la ville de l'autre. Malheureusement, de se loger dans les grandes villes mondiales étudiantes, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les étudiants. Ça coûte cher, il y a un manque d'offres. C'est pas facile d'avoir accès au logement de courte durée pour les étudiants. Donc si vous voulez, avec Switch, on va leur donner la possibilité d'échanger leur logement lors de leur stage. Et donc Lola va prendre le logement de Hailey et Hailey va prendre le logement de Lola. Cela va avoir 3 avantages pour les deux étudiantes. Le premier, c'est de ne pas payer de double loyer. Si vous voulez, on ne va pas payer de loyer dans notre ville de destination. Donc ça, c'est vraiment un gain d'argent exceptionnel pour les étudiants. Donc on va pouvoir permettre aux étudiants qui n'auront pas eu la chance peut-être de partir par manque de moyens, et bah de partir grâce à Switch.
C'est terminé. Voilà. Vous n'avez pas terminé votre pitch, hein, je crois.
Non, mais c'est pas grave, j'ai dit le principal, je pense.
Jean Dora, je me tourne vers vous. Comment vous l'avez trouvé son pitch, Jean ?
Très bien, très bien, très intéressant. Je trouve que la solution est très, très maligne et répond vraiment à l'air du temps. Ensuite, moi, ça m'appelle un commentaire. J'ai beaucoup de respect pour les fondateurs uniques. Et vous, vous êtes fondateur tout seul, et c'est pas trop dur? Comment ça se passe au quotidien?
Écoutez, effectivement, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que forcément, on est la seule personne à devoir se challenger, donc on se challenge finalement tout seul. Mais heureusement, je suis bien accompagné, donc je suis dans un incubateur depuis 2 ans maintenant. Et je suis également accompagné par mon père, qui est fondateur de nombreuses boîtes et qui m'accompagne vraiment comme étant mon mentor dans le développement de cette société.
Alors c'est peu coûteux, hein, puisque vous l'avez dit, hein, je crois qu'un étudiant va économiser en moyenne 5 500 € de loyer dans les grandes villes.
Effectivement, donc en fait, j'ai fait un calcul très simple, on voit les 10 plus grandes villes étudiantes mondiales, donc là où il y a le plus d'étudiants qui viennent de l'étranger, pour une période de 6 mois, c'est la période moyenne d'une mobilité internationale pour les étudiants. Et en moyenne, pendant ces 6 mois, un étudiant va débourser 5 500 € seulement de loyer.
Rien que le loyer.
Il n'a pas encore mangé.
Dora, ça marche comment au niveau des assurances? Parce que si j'échange mon logement, comment ça marche?
Effectivement, alors en fait, le business model de la plateforme, c'est un prix fixe en fait, de $379 l'échange par personne. Et ce qui va donner droit à des garanties, une assurance en cas d'annulation, en cas de non-conformité, en cas de dégâts dans un des appartements, etc. Le paiement de ces frais d'échange, ce qu'on appelle les frais d'échange, si vous voulez, vont donner droit à certains avantages pour les étudiants. Et effectivement, on met un point d'honneur à faire que la plateforme soit un lieu sûr, en fait.
Guillaume, que recherchez-vous aujourd'hui? Comment peut-on vous aider?
Alors, aujourd'hui, j'ai démarré la société il y a vraiment très peu de temps. Donc aujourd'hui, pour aller me développer rapidement en France et rapidement à l'international, ce qui va être un point très important pour la réussite de Switch, aujourd'hui, je suis à la recherche de fonds. Donc entre 100 et 200 000 euros pour, comme je disais, dans un premier temps, aller tester le marché en France rapidement et rapidement également à l'international.
Jean, ça vous paraît réalisable? Vous avez des suggestions?
Oui, ça me paraît réalisable. On sait que le modèle est viable puisqu'il y a des entreprises similaires qui fonctionnent sur l'échange d'appartements entre particuliers.
Effectivement.
Pour les vacances, vous partez 3 semaines aux États-Unis, vous échangez contre votre appartement à Biarritz ou sur la Côte d'Azur. Donc je sais que ça marche, en tout cas le modèle plaît parce que c'est des boîtes qui ont bien grandi, qui ont levé pas mal de fonds, qui ont créé beaucoup d'emplois, donc je suis pas inquiet pour Switch. Je me demandais, est-ce que la période récente, le confinement d'il y a quelques mois, a été un accélérateur ou plutôt un ralentisseur pour vous ?
Alors, en fait, Switch, c'est une idée que j'ai eue depuis pas mal de temps. J'ai une première boîte qui s'appelle Student Match, qui s'adresse également aux étudiants et à leur logement. Mais là, on est sur un business qui est national en France. Et j'avais l'idée de vraiment aider les étudiants à aller se loger et à partir à l'étranger facilement depuis pas mal de temps. Malheureusement, avec la première boîte, comme on le disait tout à l'heure, je suis pour l'instant tout seul. Pendant le confinement, les étudiants ne recherchaient plus de logement, donc la boîte totalement à l'arrêt. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais de lancer ma deuxième société, Switch. Et donc le confinement a été vrai. J'ai essayé de faire du confinement une chose positive. Et donc pendant 2 mois, j'ai bossé sur le projet, sur le développement de la plateforme. Et maintenant qui est opérationnel.
Mais voilà encore un projet qui est lié qui est parti du confinement. Vous avez su transformer cette petite épreuve en quelque chose de positif. Donc on vous souhaite le meilleur, Guillaume Peters.
Merci.
Pour votre plateforme d'échange de logements entre étudiants internationaux, ça s'appelle Switch.
Europe 1.
Vous avez perdu votre téléphone ou vos clés ? Eh bien, il existe une solution, ça s'appelle Trouve, et elle va nous être expliquée par Dora Nana. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Comment retrouver plus facilement son téléphone ou ses clés quand on les a perdues ? Il existe une solution, elle s'appelle Trouve, T-R-O-O-V, Trouve.com. Dora.
C'est une plateforme pour retrouver en effet les objets perdus. Fallait y penser, hein. Aujourd'hui, très peu de solutions, si ce n'est de faire le tour de tous les endroits où l'on pense avoir égaré l'objet. Là, en quelques clics, on signale la perte ou la découverte d'un porte-monnaie, d'une paire de clés, d'un sac, de lunettes. Bonjour Aurélie Toubol.
Bonjour Dora.
Vous êtes la cofondatrice de Trouve. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors imaginons que j'ai perdu, enfin je pense avoir oublié mon téléphone au supermarché en allant faire mes courses. Je me rends sur votre application, donc sur Trouve. Il se passe quoi ensuite ? C'est un algorithme qui va fouiller la base de données, voir s'il y a un objet qui correspond à ma recherche ?
Exactement Dora. Donc d'abord le supermarché qui utilise notre solution, il va faire de la pub, de la com pour vous prévenir que lorsque vous perdez un objet, vous pouvez le retrouver sur Trouve.com. Ensuite, vous allez, Dora, nous indiquer ce que vous avez perdu. Vous allez le décrire aussi précisément que possible avec un formulaire qui est très simple et très rapide. Et ensuite, si vous avez un peu de chance, vous allez recevoir un match. Ça veut dire qu'il y a une correspondance dans la base de données.
Correspondance entre ce que j'ai perdu et ce qui aura pu être retrouvé. Et vous en avez parlé, vous la proposez, votre solution, à des enseignes ou à des lieux qui voient passer beaucoup de public, j'imagine ?
Exactement. Partout où il y a du trafic, partout où il y a des gens qui passent, il y a des objets trouvés. Et donc nos clients, ça peut être aussi bien un supermarché, comme vous le disiez tout à l'heure. On travaille par exemple avec le groupe Carrefour et Carmila. Mm-hmm. Ça peut être aussi des sociétés de transport. Quand on prend le bus, on a tendance à égarer derrière soi pas mal d'objets.
Ou au cinéma par exemple aussi, non ? Au cinéma.
Et on travaille également avec les cinémas. Ouais. C'est incroyable quand on se lève après une séance dans une salle un peu obscure, comme on a l'habitude d'oublier des objets. Et c'est très saisonnier, on va retrouver pas mal de parapluies les jours de pluie et pas mal de bonnets l'hiver.
Et on est en pleine vacances également, il y a les aéroports qui ont rouvert. Et les aéroports aussi sont des lieux, je crois que vous travaillez avec l'aéroport de Nice notamment.
Absolument, on a été stupéfaits du nombre d'objets oubliés dans les aéroports. C'est pareil, les gens passent, ils ont tendance à être très excités par leur voyage et du coup ils oublient tout un tas d'objets.
Mais pardon, il y a les objets trouvés par exemple à l'aéroport ? Donc comment vous intervenez et en quoi vous êtes, entre guillemets, meilleur et plus efficace que ça, que ce système qui existe depuis 1000 ans ?
Eh bien, en fait, on travaille avec les objets trouvés. Donc l'aéroport se digitalise et donc on a digitalisé complètement le service des objets trouvés de l'aéroport de Nice, par exemple, ce qui veut dire que l'aéroport lui-même vous dit, si vous perdez un objet, allez sur trouve.com.
Ah, ok. Jean, notre coach.
Eh ben moi ça m'inspire déjà parce que c'est la seconde vie des objets qui s'en trouvent serait sans doute détruits. Donc c'est comme sur Phoenix et je trouve ça top. Après, je le vois parce que parfois sur Twitter ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on voit des photos.
Le doudou qui a été perdu.
Et ouais, les trucs font 10 000 RT, etc. Donc je vois bien la façon dont vous avez pu digitaliser ce process-là qui est un peu naturel. Je sais aussi que ça existe sur les animaux domestiques. Est-ce que c'est une catégorie que vous voulez attaquer après ? Peut-être même les enfants perdus un jour dans les hôpitaux, dans les trains, les enfants oubliés dans les supermarchés.
Alors, on fait en effet les animaux. En revanche, sur les enfants, on est dans des parcs d'attractions parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants perdus dans les parcs d'attractions, mais on s'y refuse formellement. C'est vraiment un autre marché et on ne s'y attaquera pas.
C'est quoi l'objet le plus insolite qu'on vous ait ramené, justement ?
Alors,
pour rebondir sur ce qu'a dit Jean.
quelques objets insolites, justement, pour revenir sur ce que dit Jean sur les animaux. On travaille beaucoup avec des centres commerciaux et souvent les centres commerciaux nous demandent pourquoi est-ce que dans le formulaire il y a tout un tas d'animaux. Eh bien, lorsqu'on a lancé un centre commercial en région parisienne, au bout d'une semaine, on a retrouvé un lapin. Et je ne parle pas d'un doudou, un vrai petit lapin qui s'était égaré dans le centre commercial.
Et les gens y ramènent en général ? Qu'est-ce que vous avez constaté ? Parce qu'on s'imagine toujours que, bah non, mais en effet, ça commence à prendre le civisme.
Eh bien, absolument. On est très étonnés parce que c'est vrai que, surtout en France, on a tendance à être assez négatif sur l'honnêteté des gens. Et pourtant, les bureaux d'objets trouvés sont remplis d'objets de valeur. À l'aéroport de Nice, par exemple, on a retrouvé des montres avec de valeurs vraiment hyper importantes. On retrouve de l'argent régulièrement qu'on nous rapporte. Donc, il faut maintenant se décomplexer et indiquer ce qu'on a perdu, faire confiance et on sera souvent agréablement surpris.
Jean ?
Moi, j'ai deux dernières questions. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet ? C'est quoi l'origine ? Est-ce que vous avez vous-même été victime d'une perte d'un objet cher ? Et deuxièmement, quel est le modèle économique qui est derrière Trouve ? Comment vous gagnez de l'argent ?
Alors, première question, la genèse du projet.
Bonne pioche, j'ai envie de dire. En effet, j'ai perdu mon portefeuille et j'ai été contactée parce qu'il avait été un petit peu dispersé par trois personnes différentes, par trois canaux différents, notamment les réseaux sociaux que vous citiez tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, c'est incroyable, ces gens-là sont honnêtes, ils ont passé plus d'une heure à me chercher. Et c'est dommage qu'il n'existe pas simplement quelque chose de plus facile puisqu'ils m'ont rendu un énorme service. Et donc, il faut que restituer un objet devienne quelque chose de plus simple.
De plus naturel. Concernant le modèle économique, Aurélie Toubol ?
Alors, le modèle économique, il est, comme je parlais tout à l'heure, des professionnels. C'est vrai qu'on a tendance toujours à penser au cas de particulier à particulier. Mais en réalité, 80% des objets, ils vont être retrouvés par une organisation, une ville, un festival, un supermarché ou autre. Et donc, nous, on vend cet outil à ces lieux-là, pour qui ça représente du temps, pour qui c'est un point important d'expérience client. Et donc, ils vont payer une licence avec quand même l'avantage principal, c'est que c'est gratuit pour celui qui a perdu.
Ça s'appelle Trouve, très pratique hein, pendant l'été, là,
parce que
on est à la plage et qu'on cherche quelque chose. Aussi, là aussi, vous pouvez intervenir ?
Absolument, à la plage. Tout à l'heure, on parlait des campings.
Ouais. Et bon, on va en parler d'ailleurs.
Et quand on voyage, c'est marrant, on a beaucoup plus tendance à perdre. Et l'origine, mais je pense qu'on est un peu plus détendu que dans la vie quotidienne. Donc, les vacances sont une période de pic d'objets perdus. Ouais.
Ça s'appelle le Trouve. Merci à vous, Aurélie Toubol, la solution pour retrouver les objets perdus. Europe 1. Avec près de 8000 campings répartis sur toute la France, quel camping choisir ? Camping de bord de mer, camping à l'intérieur des terres, des solutions nous aident à faire nos choix. On va les découvrir. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Eh oui, mais quel camping, c'est ça surtout. Hein. Parmi les 8000 campings implantés partout en France, certains sont labellisés selon des critères de qualité. Bonjour Christophe Lelièvre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de Camping Qualité. Camping Qualité, c'est une plateforme de réservation de campings labellisée. Et vous avez recensé plus de 300 campings de qualité partout en France. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Alors, quels sont les critères ? Comment on distingue un camping et selon quels critères de qualité ?
Alors, en fait, Camping Qualité, donc c'est un label qui s'obtient suite à un audit indépendant et sur des critères, sur 5 engagements, en fait, qui nous paraissent fondamentaux, qui sont l'accueil chaleureux, la propreté irréprochable, une information précise vraie, un emplacement privatif soigné et un environnement valorisé et respecté.
Donc, il y a...
Sur ces cinq thématiques-là, notre note, en fait, que le camping doit obtenir doit être au minimum de 80% sur ces fondamentaux-là et sur une note globale de 85% lorsqu'on additionne toutes les notes. Donc, on met la marche un petit peu haute exprès.
Alors, quand vous dites on met la marche un petit peu haute, c'est quoi ? Quels sont les critères les plus importants où ça fait augmenter la note ?
Alors, en fait, il n'y a pas de critères particuliers importants. Ils sont tous importants à nos yeux. C'est une grille qui s'évalue avec 700 points, chacun réparti dans les domaines dont je viens vous parler. Mmh. Et en fait, tous les critères sont importants parce que dans le camping, en fait, que ce soit l'accueil, la propreté, l'information, l'emplacement et l'environnement, tout ça, c'est très important
oui,
pour
enfin,
nous.
Vous en avez retenu que 300 parmi les 8000 existants en France, donc il n'y en a pas énormément finalement qui ont la chance d'avoir votre label qualité.
Alors, c'est une démarche volontaire, c'est aussi certainement pour ça. Donc, les campings viennent vers nous pour se faire auditer et donc après rentrer du coup sur notre plateforme. Donc, cette démarche étant volontaire, c'est une question de volonté de la part du camping, justement, de vouloir rentrer dans cette démarche qualitative. Et la démarche qualité, en fait, elle a été créée il y a une vingtaine d'années suite à une non-visibilité de la problématique des étoiles, en tout cas.
Dans l'hôtel de plein air, il y avait un peu tout et n'importe quoi. Donc vous êtes un peu comme une OTA, un peu comme un booking du camping, mais pas de commission, rien. Hein. Vous garantissez le niveau des prestations sur tous les campings que vous avez rigoureusement sélectionnés, mais il n'y a pas de commission. Nous, on rentre, on visite directement la plateforme et on choisit notre camping. C'est bien ça ?
C'est ça, c'est du direct du consommateur au producteur.
Dora, les Français, nous sommes des champions du monde du camping. Hein.
Oui, la France, c'est le premier parc de camping d'Europe et le second dans le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, 8000 campings sur le territoire. Un Français sur trois qui déclare avoir été au camping au moins une fois au cours des 5 dernières années. Plébiscité forcément pour son rapport qualité-prix, la proximité avec la nature, la convivialité. Et ces dernières années, on a vu apparaître mobile home, chalet, cabane, tente lodge, bungalow. Tout ça est venu remplacer la bonne vieille tente, vous savez, qu'on a connue avec la caravane. Ben, aujourd'hui, on recherche le confort, des prestations de haut niveau et de l'insolite. On veut dormir en yourte, en roulotte, en cabane dans les arbres, en bulle transparente et tout est possible.
Jean, vous faites du camping, Jean ?
J'en ai fait, j'en ai fait.
Et alors, camping qualité, vous avez peut-être une question pour Christophe Lelièvre.
La question, c'est... déjà, je pense que ça répond à pas mal de demandes des consommateurs sur la qualité, la certification, la traçabilité, les avis des uns des autres.
On veut une transparence
aujourd'hui. Donc, je pense que c'est dans l'air du temps. C'est votre équipe qui a testé les 300-400 campings en question. Vous les avez tous visités ou vous reposez sur les avis de tierces personnes ?
Alors, c'est des auditeurs indépendants qui font les audits pour qu'ils puissent obtenir le label. Personnellement, nous en visitons quelques-uns dans l'année pour pouvoir voir justement s'ils sont au niveau. En règle générale, nous n'avons pas de mauvaise surprise. Les cabinets d'audit sont tout à fait habilités à...
Ce sont des clients mystères indépendants.
Tout à fait.
Alors, avoir un label de qualité et payer le meilleur prix, c'est une combinaison gagnante que vous faites. Laurent Atuil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le gérant, vous, de Toocamp, T-O-O-C-A-M-P. C'est un comparateur de camping. Vous travaillez avec plus de 2000 campings. Vous proposez de comparer des campings en France, mais pas seulement, en Italie, en Espagne, au Portugal et en Croatie. Comment vous travaillez avec eux ? Qu'est-ce que vous les sélectionnez ?
Nous, on ne les sélectionne pas. Nous, si vous voulez, en tant que comparateurs de prix, les tour opérateurs et les campings viennent nous voir parce qu'effectivement, ils ont besoin de visibilité sur Internet. C'est ce qu'on leur procure. Toocamp est un très gros site, très bien positionné sur Internet. Donc, ils viennent nous voir pour avoir du trafic. C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche d'internautes. Donc, ils demandent à être référencés chez nous. Bien évidemment, nous, on leur facture le trafic qu'on leur envoie. Mais ils veulent effectivement avoir du trafic de qualité.
Ouais, donc c'est une forme de vitrine, de visibilité que vous leur proposez.
Exact. En gros, on est le kayak du camping. Vous connaissez les comparateurs de vol le kayak ou l'Illigo, voilà. Donc on est à peu près le même modèle. On leur donne de la visibilité et on leur génère du trafic.
Jean ?
Donc votre modèle économique, c'est que vous prenez une commission sur le revenu additionnel, c'est ça ? Et à terme, vous pourriez fusionner avec un booking ou avec un comparateur d'hôtellerie ?
Ou pourquoi pas avec notre invité, avec Camping Qualité ?
Pourquoi pas ? Bah, pas vraiment. Alors, on pourrait travailler à la commission, c'est vrai, mais on travaille au clic. On travaille dès qu'on envoie un internaute, si vous voulez, sur le site du marchand, on facture un clic.
Bon, faut beaucoup de volume alors. Hein.
Beaucoup de volume, mais par contre, on fait de la qualité. Parce que ce que je vous disais, c'est qu'on intègre les catalogues online de tous les opérateurs. Et ça, c'est remis à jour quotidiennement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a non seulement le camping, si demain le camping fait une promotion, elle apparaîtra chez nous. Si le camping est complet dans un locatif particulier à une certaine date, il disparaît de chez nous. Voilà, donc on va lui fournir du trafic uniquement sur les locations sur lesquelles il a de la disponibilité.
Et au-delà du trafic, il y a aussi un retour. Hein, il y a des échanges entre les membres via une messagerie pour pouvoir se donner des conseils sur les différents campings.
Bah, l'avantage, si vous voulez, le comparateur, on ne fait pas du vol. Là, effectivement, on peut partir avec Air France ou avec KLM, c'est la même chose. Nous, on fait du camping. Donc, la qualité est super importante. Donc, on va non seulement avoir les tarifs d'une location, mais aussi avoir des vidéos sur chacun des campings, les avis des consommateurs sur les campings, des photos, des descriptifs, voilà.
Alors, ça tombe bien, les avis des consommateurs, en ce moment, on est en plein été. Qu'est-ce qui ressort du lot? On va où? On campe où? Les gens recherchent quoi?
Alors, cette année, ça ne change pas trop par rapport aux années précédentes. Je crois que le Sud va rester effectivement une destination très demandée. Nous, on le voit actuellement parce qu'on a une opération avec la région PACA. Et le PACA est quand même très, très demandé. Après, vous avez des zones comme effectivement le Languedoc-Roussillon, toute la partie mer.
Donc,
on
reste au bord de la mer. Hein. Les personnes qui aiment faire de pratiquer l'hôtellerie de plein air, on affectionne le bord de mer.
Tout à fait. C'est vrai que historiquement, l'intérieur est souvent fréquenté par les étrangers, par les Hollandais et les Allemands, par exemple.
C'est moins le cas cette année.
Mais c'est vrai que effectivement, cette année, ça va être plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Mais c'est vrai que le français va au bord de mer. Oui.
Jean.
Et vous-même, vous êtes un ancien consommateur de camping ou un ancien gestionnaire de camping. D'où vous est venue l'idée du comparateur de prix?
Bah, si vous voulez, moi, d'où c'est venu, c'est que j'avais travaillé pendant quelques années dans un gros tour opérateur qui s'appelait Omer Vacances, qui était propriétaire de camping. J'ai travaillé pour eux pas mal d'années et suite à ça, j'ai vu effectivement qu'il n'existait pas de comparateur. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce créneau.
Eh bien, ça s'appelle TooCamp. Merci à vous, Laurent Atuil. Merci à Christophe Lelièvre, le président de Camping Qualité. Merci de nous avoir présenté vos solutions en matière de camping.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas planter sa tente seule sur un terrain? Ça existe avec Home Camper et on va les découvrir. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Pas d'air d'accueil à proximité pour passer la nuit, hein, ça peut nous arriver. Eh bien, pourquoi ne pas faire une halte dans le jardin d'un particulier? C'est ce que vous proposez, Étienne de Galbert, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le fondateur de Home Camper. C'est une plateforme qui permet de trouver un terrain chez l'habitant pour passer la nuit. Alors, on ne va pas chez lui, hein, ce n'est pas comme une maison d'hôte. Non, là, on plante sa tente dans son jardin.
Oui, tout à fait. Donc, nous avons créé un service collaboratif en ligne et donc qui permet aux voyageurs de camper à un prix modéré dans des jardins ou des terrains privés.
Alors, ça fonctionne comment? Par exemple, je trouve un jardin. Comment je le trouve d'abord?
Alors, de possibilité, vous êtes chez vous dans votre canapé, vous préparez votre voyage. Donc, vous allez sur le site Home Camper et vous tapez donc un pays, une région ou un site touristique. Et vous trouvez ensuite autour tous les jardins privés qui sont disponibles à la réservation. Ou bien l'autre possibilité, vous êtes sur la route, vous ne savez pas trop où aller ce soir, le temps devient un peu menaçant et vous aimeriez bien être à l'abri. Au contraire, il fait très chaud et vous voulez une piscine. Et à ce moment-là, vous cherchez autour de vous une étape pour ce soir, pour passer la nuit en camping-car ou en minivan.
Donc ça, c'est du côté de celui qui va camper, mais tout particulier peut proposer son jardin à la location s'il est inoccupé?
D'accord. Alors donc du coup, en France, il y a plusieurs règles d'urbanisme notamment. Donc, pour pouvoir héberger dans son jardin, eh ben, il faut déjà respecter certaines consignes. Donc, on est limité au maximum à 6 emplacements et un maximum de 20 personnes au même moment dans un jardin privé. Et une activité qu'on ne peut pas faire de plus de 90 jours par an.
Donc, vous proposez une sorte de Airbnb, hein, si je peux me permettre, du terrain de camping. Comment ça marche? Il y a de la demande?
Oui, tout à fait. Donc, encore plus cette année avec les problèmes de contraintes sanitaires, etc. Donc, les gens cherchent des grands espaces, des endroits loin de la foule et avec un accueil de qualité sur mesure. Donc, ça répond tout à fait aux inquiétudes et à des nouvelles modes de vacances.
Parce qu'une fois qu'on pose sa tente ou son camping-car dans le jardin, on est accueilli par le propriétaire. Quelles sont les modalités pour accéder au jardin? Il y a un échange?
Alors, tout à fait. Donc, effectivement, la notion de rencontre et de partage est très importante dans l'expérience Home Camper. Et donc, les propriétaires, donc les hôtes, sont là pour vous recevoir et vous donner des conseils de visite. Très souvent, ils aiment beaucoup leur région et connaissent bien le patrimoine. Donc, cette notion de conseil et d'accueil est très importante. Après, par rapport aux conditions sanitaires cette année, ben, effectivement, on prend toutes les précautions de distanciation. Et bien évidemment, par exemple, en camping-car, on peut être autonome 3 à 4 jours et donc utiliser ses propres sanitaires et sa douche, etc.
Donc ça permet, on entend, d'occuper le jardin d'un particulier ou le terrain d'un particulier. Ça permet de créer des liens et on le voit, il y a une réelle dimension sociale. Nous sommes avec Jean Moreau, notre coach, qui a une question pour vous.
Bonjour, moi je trouve ça très malin, hein, parce que ça répond aux besoins des consommateurs de faire des économies et de trouver des moyens d'avoir des revenus complémentaires, donc je pense que ça va bien cartonner. Ma seule question, c'est au niveau de la saisonnalité. Tout se joue en ce moment, là, hein, parce que après on imagine que venir planter sa tente dans le jardin pendant l'automne ou l'hiver, c'est plus compliqué, donc vous avez pas mal de pression, j'imagine, pour le mois d'août.
Alors bien évidemment, il y a une forte saisonnalité, puisqu'on est dans du tourisme de plein air. Mais malgré tout, notre offre s'adapte à tout type d'hébergement de plein air. Donc, je mentionnais tout à l'heure les minivans et les camping-cars qui, eux, partent toute l'année, à peu près 70 jours par an en moyenne. Mmh. Et donc, ils vont pouvoir trouver une offre d'hébergement, même lorsque des campings sont fermés, même lorsqu'ils partent, par exemple, au sport d'hiver. Donc, on a effectivement une forte saisonnalité, mais on a aussi une saison qui s'éternise, notamment sur les mois de septembre-octobre. Par exemple, des personnes en retraite qui partiraient retrouver leur famille ou retrouver des beaux jours.
En plus, Étienne de Galbert, vous êtes présent, vous n'êtes pas présent qu'en France, hein, je crois que vous êtes présent dans plus de 28 pays.
Alors oui, même encore plus que
encore
ça,
plus. Donc
ça progresse fortement. Effectivement, à l'origine, on a démarré la société en France pour tester le concept et voir s'il y avait effectivement une vraie demande. Et puis, ben, nos clients, par définition, traversent les frontières et donc apprécient bien de pouvoir trouver ce mode d'hébergement et ben, en Italie, au Portugal et dans la plupart des pays d'Europe désormais.
Dora, on parlait du camping-car. Le camping-car, ça marche très très fort cette année. Hein.
Ça marche du tonnerre même. Les professionnels, ils assistent à une explosion des ventes et des demandes de location aussi entre particuliers qui cartonnent. Autre tendance, c'est la demande de vans et fourgons aménagés, une tendance baptisée van life, un mode de vie nomade et minimaliste. Il y a Yescapa par exemple, la plateforme fondée en 2011 qui a vu ses locations multipliées par 2 voire 3 entre juin 2019 et ce mois de juin-ci. Il y a aussi Wikicampers qui fait de la location de camping car entre particuliers qui propose aussi des itinéraires et des excursions à faire.
Alors, comment ça se passe là, vous nous l'avez dit, si on a un camping-car, on peut avoir nos propres sanitaires, mais on a aussi la possibilité d'avoir accès à la maison pour pouvoir prendre une douche ou même peut-être se réchauffer un plat.
Oui, tout à fait. Alors déjà, les noms que vous avez cités, ce sont des partenaires, puisque la plupart des acteurs du tourisme de plein air travaillent avec nous. Concernant plus particulièrement la van life, donc les minivans et les fourgons aménagés, donc bien souvent, ils ne disposent pas de sanitaires. Et donc, ce qu'ils apprécient, c'est de pouvoir faire dans leur recherche, en mettant différents critères, pouvoir trouver des sanitaires, le Wi-Fi par exemple, éventuellement la location de vélo.
Oui, il y a cette notion d'entraide, hein, de solidarité qui est toujours en toile de fond. Jean Moreau.
Moi je le perçois un peu comme, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais comme une alternative au camping pour avoir un peu moins de promiscuité et pour les gens qui veulent être plus tranquilles, mais dans une même expérience un peu similaire, c'est ça?
Un bon entre-deux.
Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est même une offre complémentaire puisqu'on a beaucoup de clients qui sont des nouveaux clients, des nouveaux utilisateurs. Donc, vous parliez tout à l'heure des loueurs de vannes. Donc, c'est des personnes qui, bien souvent, louent pour la première fois avant éventuellement d'acheter ou qui découvrent ce mode de vacances. Et du coup, ils nous trouvent sur Internet et réservent donc le complément, c'est-à-dire l'hébergement de leur pour leur séjour. Et effectivement, on est sur un modèle beaucoup plus réactif puisqu'on peut annuler jusqu'au jour même.
Et donc, c'est hyper pratique, tout se passe en ligne.
Voilà.
Et si je n'ai pas le matériel, vous pouvez m'en fournir?
Ah, très bonne question. Et donc, du coup, on a plusieurs partenariats, bien évidemment avec les loueurs et les vendeurs de véhicules de loisirs. Mais depuis cette année, on vient de lancer donc pour la première année en partenariat avec Quechua, une marque que vous connaissez très certainement du groupe Decathlon, donc un service de location de matériel de camping. Et donc sur le site location.quechua.fr, vous allez pouvoir réserver votre kit de camping et vous faire livrer directement sur place dans les jardins Home Camper. Donc voilà, vous n'avez même pas à transporter votre matériel et encore moins à le posséder puisque c'est en principe du matériel qui n'est pas forcément très utilisé. Donc on vient de lancer cette année un test avec, des Decathlon là-dessus.
Et avec les contraintes sanitaires, avec le confinement, vous avez assisté à une forte progression sur tout ce qui est location de matériel de camping, parce que pour certains, ça va être c'est une première cette année. Hein.
Tout à fait. Alors bon, pour l'instant, les retours sont encore à confirmer, puisqu'on on devait lancer cette offre au mois de mars. Elle devait être annoncée dans la presse et au grand public.
Donc vous l'avez lancée après?
Bien évidemment, elle a été retardée et avec un peu moins de budget disponible pour communiquer. Donc pour l'instant, c'est essentiellement de valider le concept, les attentes et puis le parcours client. Mais par contre, effectivement, chaque réservation donne lieu à des très très bons témoignages. Donc on
et plus de réservations par rapport
oui,
à d'habitude.
Plus de réservations également.
Et bien tout va bien.
Et surtout des nouveaux clients.
On part au camping, Dora ?
Jean, ouais, ça vous dit ? Je suis bien tentée, moi, par le jardin.
Merci à vous, Étienne de Galbert. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Home Camper, cette plateforme qui permet de trouver un terrain chez l'habitant pour passer la nuit. Europe 1. Imaginez une cabane que vous portez sur votre dos qui vous permettrait de dormir à la Belle Étoile ou partout. Eh bien, voici l'incroyable projet d'une start-up française qui a imaginé la Cabaniste Zéro. On va la découvrir. Restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et on parle hôtellerie de plein air, camping aujourd'hui sur Europe 1. Nous sommes avec notre coach du jour, Jean Moreau, le président de Phoenix, avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Et si on se mettait à parler d'une cabane, d'une tente que l'on pourrait porter sur notre dos et s'installer partout où on veut, quand on veut. Bonjour Noémie Rogeau.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la dirigeante de 2R Aventure. 2R Aventure, c'est l'entreprise qui est à l'origine de la cabane Cabaniste Zéro. Cabaniste Zéro, c'est une cabane tout terrain, transportable sur le dos, montable n'importe où, sur l'eau, dans les airs, avec matelas et, hyper important en ce moment, moustiquaire intégré. Qu'est-ce que c'est que ce concept ?
L'idée, c'est de dire qu'on peut camper de plus en plus partout, mais beaucoup de gens ont des problèmes de confort, de sécurité, etc. Moi, j'ai beaucoup campé et j'ai beaucoup eu de mal à emmener des gens avec moi, parce que c'est jamais assez confortable, parce qu'on ne sait jamais comment on met les arceaux, parce qu'il manque toujours un arceau, parce que ceci, parce que cela, ou qu'on n'a jamais le bon spot. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui s'installe super facilement, donc qui se gonfle, qui se transporte aussi assez facilement, et qui peut s'installer partout, que vous soyez sur des cailloux, que vous soyez dans l'eau, que vous soyez un peu partout.
Alors comment vous vous y êtes pris ? Parce qu'en plus de ça, cette cabane, ce qu'elle a d'incroyable, au-delà de l'ingéniosité du concept, c'est qu'elle est 100% française. Comment vous vous y êtes pris pour arriver à tout combiner ?
Alors nous, 2R Aventure, c'est une entreprise qui est basée dans le nord de la France, donc dans les Hauts-de-France, qui a une forte histoire textile. Initialement, on distribue des tentes suspendues, donc qui sont des choses déjà assez magiques, qui sont un hamac qui se transforme en tente et qui font découvrir des expériences extraordinaires. On avait des petits problèmes de polyvalence et on s'est dit, mais on est dans un terreau textile. Il y a des usines textiles qui restent, qui perdurent, qu'on a pu voir pendant le confinement sur les sujets de masques, etc. Il y a une histoire et un savoir-faire qui est absolument extraordinaire. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de combiner, justement, le territoire et la France qu'on aime, qui a été discuté par vos invités précédemment, et cette fabrication de Made in France, justement, basée sur ce savoir-faire qui est extraordinaire et qui permet de faire des choses assez étonnantes.
Donc, vous l'avez fait, et on le voit, on a regardé une petite vidéo tout à l'heure avec Dora en préparant l'émission. Rien gonflé, la cabane gonflable change tout, c'est-à-dire qu'on la porte sur le dos, et comment on fait ? On souffle dans quelque chose ou on la déplie ? On fait comment ?
Alors, on la déplie assez simplement. En fait, vous avez trois...
Elle est livrée avec un sac, sur mesure.
Elle est livrée avec un sac qui est sur mesure, avec un gonfleur. Et l'idée, c'est vous avez un gonfleur qui ressemble à un gonfleur de stand-up paddle, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Donc, qui ne prend pas trop de place et qui est relativement compact. Vous gonflez d'abord un matelas qui est structurant.
En plus, il est intégré, le matelas. On n'a pas besoin de prendre son tapis de sol et son sac de couchage.
Exactement. Vous gonflez d'abord le matelas. Ça permet d'avoir quelque chose sur lequel vous pouvez éventuellement danser dans l'eau, si vous voulez, ou faire quoi que ce soit.
C'est génial.
C'est super rigide. Et après, vous venez gonfler les arceaux qui sont accrochés à la moustiquaire. Et donc, ça vous permet d'avoir les deux ensemble. Et si jamais vous voulez surélever pour X ou Y raison, parce que vous avez avec des personnes qui n'aiment pas se mettre à même le sol ou que vous voulez être à 50 cm du sol, vous avez des boudins de rehausse qui vous permettent ou de vous positionner dans l'eau avec deux chambres pour être sûr qu'on n'a pas de soucis de crevaison pour ne pas se retrouver...
On peut dormir sur l'eau avec cette cabane.
On peut dormir sur l'eau.
Ça fait rêver. Moi, vous m'avez fait rêver avec votre cabane. Là, j'ai regardé les images tout à l'heure. On voyait une petite rivière, on descendait comme ça. Je me suis dit, c'est formidable. Et c'est des matières perméables, du coup, j'imagine. Imperméables.
Oui, exactement. C'est des matières imperméables.
Ça risque pas de crever ?
Non.
Comme un matelas pneumatique là, qu'on met dans la piscine ?
Alors, en fait, on est vraiment sur des choses qui sont super costauds.
On
a fait plein de tests. On a testé dans les ronces, on a testé dans plein d'endroits. Ça risque pas de crever. On est sur vraiment des choses qui sont super costauds, qui sont des tissus qui sont assez innovants, qui ont été testés dans pas mal de conditions, etc. Et vraiment, alors on a fait tous les tests. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais en tout cas, nous, on l'a testé dans plein de conditions et ça ne crève pas.
Et si on a rêvé et qu'on veut se la procurer, vous la louez, vous la vendez, elle est distribuée où et ça coûte combien si je veux l'acheter moi
je le sens con.
Je suis parti, je me projette.
Alors aujourd'hui, on propose deux choses. On a travaillé l'année dernière sur un système de crowdfunding pour la lancer justement, pour être sûr qu'on avait quand même un petit marché. Et donc on a vendu des nuitées. Donc on a installé en partenariat avec les parcs naturels régionaux français, qui ont des problématiques d'hébergement temporaire et de préservation et de faire en sorte que ça soit durable, etc. Donc on a travaillé avec eux sur des partenariats où on vient installer la tente, la cabane sur une nuitée, sur deux nuitées, etc. Dans des conditions où l'idée, c'est vraiment de laisser le moindre trace possible et de faire en sorte qu'on reste dans les endroits préservés. On peut aussi l'acheter. On la vend en ligne sur notre site internet.
Bon, c'est quand même un budget, il faut le dire.
Oui.
Près de 2000 euros.
Exactement. Ça s'explique par plusieurs choses. On est en Made in France, donc déjà forcément, on est quand même un peu obligé d'avoir des coûts de confection qui sont relativement importants, même si on fait en sorte...
Vivement que ça s'arrête, ça. On puisse dire que c'est fabriqué en France et c'est abordable.
C'est un peu malheureusement la difficulté. Et puis après, on est sur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des textiles qui sont très particuliers, des matériaux qui sont très particuliers et qui sont relativement onéreux.
Combien de personnes dans cette cabane, dans cette cabaniste zéro ?
Deux adultes, on est sur la taille d'un lit double, on est en 140 par 200.
Donc en famille, on fait comment ?
On en prend plusieurs ou on prend autre chose ?
Jean ?
Ça pèse combien sur les épaules si on fait une rando ?
Alors, il ne faut pas faire une rando très très longue, on est à 15 kilos. Après, on peut séparer et on n'est pas obligé de prendre tous les kits. Si vous savez à peu près où vous allez, vous n'avez pas forcément besoin de prendre le kit de suspension, le kit de flottaison et le kit de surélévation. Donc vous pouvez un petit peu varier les plaisirs. Si vous ne savez pas où vous allez, on part
à l'aventure. On prend la totale. Ça nous fait rêver, Dora, cette cabane. Vous avez trouvé d'autres cabanes.
Ouais, j'ai rêvé aussi encore.
Avec
la Hussarde, qui est une tente de toit. Alors ça aussi, j'ai adoré. C'est Made in France aussi. C'est Night Up. Ça s'appelle A-I-N-A-I-T, plus loin, Up, U. Qui s'installe sur le toit de la voiture. Alors, il suffit qu'elle soit équipée d'une barre de toit comme pour le ski. Là, c'est comme un coffre. C'est dans une petite cote, une petite coque ultra design. Elle s'ouvre en 30 secondes. Le matelas est intégré et ça peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Pour les plus peureux, Elisabeth, je parle pour vous parce que peur, vous aviez des craintes. Elles ont subi toutes sortes de crash tests.
Vous aussi, vous avez testé, j'imagine.
Oui, on a beaucoup testé.
Noémie.
Nous, on a beaucoup testé dans pas mal de conditions et dans des environnements assez différents, à la fois en France et aussi un petit peu à l'étranger, dans la neige et dans d'autres choses.
Combien de cabanes vendues là jusqu'à présent ?
Alors, on est sur le tout début. Donc pour l'instant, on est sur quelques unités. On est sur une dizaine d'unités cette année.
C'est déjà
beaucoup.
Et
l'idée, c'est d'essayer de monter un petit peu et de voir un petit peu comment ça prend.
Et ce sera destiné seulement aux particuliers ? Pourquoi ne pas proposer ça, par exemple, dans des grands hôtels ou dans des clubs de vacances où ça pourrait être l'objet d'une activité proposée et payante à...
C'est une bonne idée. On a déjà des contacts avec des organisateurs de voyages qui vont camper dans le désert ou qui vont faire des choses absolument étonnantes.
Ça peut être un investissement pour un hôtel ou un club. Jean ?
Moi, je l'ai fait en confinement avec mon fils. On a dormi dans le jardin de chez mes parents, mais ça n'a pas duré trop longtemps.
Parce que ce n'était pas la bonne tente.
Est tombée, il a fallu rentrer.
C'était
pas la bonne tente, on était mal équipés.
En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Noémie Rojo, pour cette cabane, Cabaniste Zéro. J'invite nos auditeurs d'aller regarder sur Internet. Vous avez un site Internet ?
Oui, 2raventure.com ou cabaniste.fr.
Et là, vous allez voir, vous allez vouloir camper tout simplement et pourquoi pas investir dans cette très jolie cabane. C'est la fin de votre émission. Jean, le mot de la fin ? On est parti camper là aujourd'hui.
Oui, on voit que même dans les secteurs les plus traditionnels, comme celui du camping par exemple, en fait c'est un superbe terreau d'innovation pour des belles idées. Mm-hmm. Et donc il ne faut pas se mettre de barrières quand on est un entrepreneur. On peut explorer des sujets comme ça qui peuvent paraître un peu poussiéreux et qui en fait sont des énormes marchés puisqu'on l'a vu. Il y a 8000 campings en France, donc Quand on veut entreprendre, il faut explorer toutes les possibilités et ce secteur est un bel exemple.
Et donc, il y a encore des choses à faire. Merci à vous, c'est la fin de votre émission. À demain.
Merci Elisabeth, c'était Elisabeth Assayac pour La Frange Bouge, de retour donc demain à 13h10 sur Europe 1. Excellent après-midi en musique maintenant avec ce jeune artiste venu tout droit de Belgique. Il s'appelle Noé Préchoff, à nous sur Europe 1.